RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h04 sur RMC, l'Intégral Tour avec une pensée spéciale pour la famille de Jules Bianchi, le pilote français de Formule 1 décédé hier depuis ce matin. Toutes les réactions sur RMC, on sera avec Patrick Tambay à 18h30, on entendra Romain Grosjean. On reviendra aussi sur la Coupe Davis avec des Français qui sont menés pour l'instant 2-1 par la Grande-Bretagne. L'escrime aussi, sans médaille encore aujourd'hui. Mais d'abord 18h05, on est avec Guillaume Laniel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
La première édition d'RMC Sport, la 14e étape du Tour de France et des Français qui sont passés tout près.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. On va en parler dans quelques instants avec Christophe Cessieu. Une étape qui a suivi de très très près en tout cas le président de la République François Hollande aux côtés de Christian Prudhomme. Christophe Cessieu est avec nous sur les routes du Tour de France. Salut Christophe.
Salut Guillaume.
Eh bien le président n'a pas porté chance à nos Français, notamment à Romain Bardet et Thibaut Pinot, coiffés sur le fil par le Britannique Steve Cummings.
Eh oui, décidément, les Britanniques aujourd'hui nous ont fait mal dans tous les sports, pas seulement dans le cyclisme, on en parlera, j'imagine, avec toi dans quelques minutes avec le tennis, mais évidemment, Stephen Cummings nous a mis un peu de frustration ce soir, puisqu'il a réglé au sprint tout à l'heure sur la ligne d'arrivée de cette 14e étape, il a réglé au sprint Thibaut Pinot et Romain Bardet, que l'on voyait vainqueurs de cette étape, qui avaient réussi à fausser compagnie à leurs anciens compagnons d'échappée dans la montée finale vers l'aérodrome de Mende. Ils avaient quasiment course gagnée, oui, mais c'était sans compter sur Stephen Cummings, qui est monté à son train et qui, dans le dernier kilomètre, sous la flamme rouge du dernier kilomètre, a réussi à fausser compagnie aux deux Français qui se sont un petit peu observés, qui n'ont pas réussi à prendre la route du Britannique. Il termine donc deuxième pour Thibaut Pinot et troisième pour Romain Bardet. Grosse déception, grosse frustration évidemment, parce que la victoire leur tendait les bras. Une deuxième victoire d'étape sur les routes françaises de ce Tour de France. Eh bien, il faudra attendre les jours prochains. Stephen Cummings qui s'impose donc devant les deux Français. Le groupe maillot jaune est arrivé un petit peu plus tard. Un groupe maillot jaune, plutôt un maillot jaune qui s'est imposé, puisque Chris Froome a réglé au sprint Nairo Quintana. Quintana qui avait fait plusieurs tentatives dans la montée. Il avait réussi à semer dans un premier temps Froome, qui est revenu au train et qui donc, dans la ligne droite finale, a réussi à surprendre Nairo Quintana, qui se console en décrochant la deuxième place au classement général, car TJ Van Garderen est arrivé un peu plus tard, ce qui nous donne donc au classement général. Premier Froome, deuxième Quintana à 3 minutes 10. Van Garderen est désormais troisième à 3:32. La seule bonne nouvelle pour Romain Bardet, c'est qu'il remonte au classement général. Il est ce soir 12e à 13 minutes 10. Le premier français, c'est toujours Tony Galopin, 9e à 8 minutes 23 de Christopher Froome.
Merci Christophe. Et tu parlais de frustration, évidemment, le maître mot aujourd'hui pour ces places d'honneur avec Thibaut Pinot et Romain Bardet. Le leader de la formation AG2R n'a pas caché sa déception quelques minutes après le final de l'étape.
Ah, moi je savais qu'il fallait que je monte par à coup comme je l'ai fait pour décrocher mes adversaires. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué dès le pied et bon, ouais, je l'ai payé un petit peu sur le haut, là, je la connaissais pas, la montée était un petit peu longue. Voilà, je marquais exclusivement Thibaut. Je pensais en faire mon affaire au sprint. Donc voilà, c'est dommage parce que Thibaut on est amis, on se fait avoir. On a tous les deux raté notre tour pour l'instant et voilà, ça aurait été bien que l'un de nous deux puisse gagner. Donc c'est extrêmement décevant.
Voilà, abattu, hein. Romain Bardet avec Pierre-Yves Leroux. Et puis sachez qu'en marge du tour, Richie Porte, équipier de Chris Froome à la Sky, a affirmé dans une interview au Télégraphe avoir été frappé par un spectateur. L'incident se serait déroulé lors de la 10e étape du Tour de France à la Pierre-Saint-Martin.
Et cette drôle de fin d'étape pour les Français, on en parle bien sûr dans une dizaine de minutes avec Cyril Guimard. Triste samedi pour le sport français, Guillaume.
Oui, avec le décès de Jules Bianchi, hein, qui aurait eu 26 ans le 3 août. Le pilote français était dans le coma depuis son terrible accident survenu à Suzuka au Japon le 5 octobre dernier. Il est également le premier pilote à mourir de sa passion pour la vitesse depuis le décès en 1994 d'Ayrton Senna. Camille Gelpi nous a rejoint. Salut Camille.
Bonsoir à tous.
C'est toute la famille du sport automobile qui pleure sa disparition aujourd'hui.
Oui, surtout les pilotes du circuit qui saluent sur les réseaux sociaux un ami qu'ils ont fréquenté depuis leur plus jeune âge. On a perdu un des meilleurs gars, un des meilleurs pilotes, tu vas tellement me manquer, mon ami, écrit Romain Grosjean. Charles Pic, lui, poste une photo de lui et Bianchi, adolescent, côte à côte sur un podium. Pour Jean-Éric Vergne, autre pilote français, le destin est la seule chose qu'on ne peut pas combattre. Pour le reste, Jules est le plus grand combattant et le plus grand pilote. Un hommage international, puisque Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Felipe Massa ou encore Fernando Alonso ont eux aussi exprimé leur tristesse. Une peine qui touche également les anciens qui voyaient en lui la relève. Écoutez par exemple l'ex-pilote F1, Olivier Panis.
Un souvenir magnifique d'un jeune adorable, rapide. Il avait tout l'avenir devant lui. C'était un jeune tout ce qu'il y a de plus adorable et un Donc c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé sur cet accident. Maintenant, il vient de partir. Tout ce qu'on peut donner, c'est des condoléances à toute la famille.
L'hommage est même présidentiel avec un communiqué de François Hollande. Le sport automobile français perd avec lui un de ses plus grands espoirs, écrit-il. Patrick Kanner, ministre des Sports, exprime lui sa compassion et sa sympathie envers la famille du pilote qui, je cite, a rejoint le cercle des pilotes disparus.
Merci Camille. On imagine évidemment un hommage digne de ce nom lors du prochain Grand Prix. Ce sera en Hongrie le 26 juillet.
Et le week-end prochain sur RMC, on en parle avec Patrick Tambay dans quelques instants pour cette journée de réaction et de deuil du sport automobile français suite à ce décès de Jules Blanqui.
RMC Coupe Davis, quart de finale, Grande-Bretagne-France.
Quart de finale, Grande-Bretagne-France, Guillaume, et la France au bord de l'élimination.
C'est la Grande-Bretagne qui a remporté le double. Aïe, 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 pour nos Français, les Britanniques mènent désormais 2-1. On retrouve à Londres Eric Salio. Salut Eric.
Bonsoir.
Victoire en 4-7 des frères Murray aux dépens de Tsonga et de Mahut. Le score 4-6, 6-3, 7-6, 6-1. Un succès logique, Eric?
Oui, oui, les Britanniques nous ont été supérieurs, même si les Français avaient pris le meilleur départ. Mais c'est vrai que le gain du troisième set la perte du troisième set a fait très mal au bleu, avec notamment cette balle de set, ce retour un peu magique d'Andy Murray qui a contraint Nicolas Mahut à un plongeon désespéré. Ensuite, ça a été la dégringolade. Bon, alors il n'est plus question de revenir sur les choix du capitaine. Il faut se projeter sur la journée de demain. Les Français sont au bord du précipice, effectivement, mais il reste encore une toute petite chance. Ça passera demain, en début d'après-midi, par un exploit face à Andy Murray. Toute la question est de savoir qui on va lancer face au numéro 3 mondial. Il y a deux solutions, hein. Soit on garde Gilles Simon, numéro 1, qui reste sur 3 très bons matchs face à Andy Murray. Soit on sort du banc Richard Gasquet pour tenter donc l'improbable exploit, et auquel cas c'est forcément Joe Wilfried Tsonga qui jouerait l'éventuel cinquième match décisif. Donc Arnaud Clément nous a dit que la décision était prise. Évidemment, il ne l'a pas communiqué, mais ça paraît quand même une mission impossible, même si Andy Murray n'est pas à l'abri d'une nouvelle cabriole, puisque tout à l'heure il s'est affalé sur le gazon et on a eu peur, enfin on a eu peur entre guillemets pour ses adducteurs, mais il a repris le jeu et il a bouclé l'affaire avec son frangin.
Merci Eric, on va écouter tout de suite le capitaine de l'équipe de France, Arnaud Clément. Vous allez l'entendre marqué après cette défaite des joueurs tricolores.
C'est un vrai coup derrière la tête, c'est un moment difficile. On savait que ce double était extrêmement important. Je sais pas, composer en tout cas d'une équipe avec des beaucoup de joueurs qui sont courageux, qui se donnent à fond à chaque fois qu'ils portent le maillot de l'équipe de France, et demain ils donneront tout en tout cas pour dans un premier temps essayer de revenir au score. Et puis bien sûr ils étaient déçus, mais en aucun cas j'ai vu dans leur regard, dans leur attitude, un abattement qui voulait dire on a perdu la rencontre, parce que la rencontre elle n'est pas perdue encore.
Arnaud Clément avec Vincent Delzesco. On rappelle que le vainqueur de France-Grande-Bretagne défiera en demi-finale soit le Kazakhstan, soit l'Australie. Et ce sont les Kazakhs qui mènent 2-1. Ce samedi, les Australiens ont réduit le score sur le double grâce à la paire composée de Sam Gross et de Leighton Hewitt.
Le football, Benjamin Stambouli sera bien joueur du PSG la saison prochaine.
Et l'ancien Montpelliérain va s'engager ce week-end pour 3 saisons. Il est la deuxième recrue parisienne de l'été après le gardien allemand Kevin Trapp.
RMC, France Olympique.
Les championnats du monde d'escrime à Moscou et une journée sans médailles.
C'est pas beaucoup mieux, effectivement. Ça avait bien démarré, ouais, sans médaille pour nos Français. On va rejoindre dans la capitale russe Rodolphe Massé. Salut Rodolphe.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Pas de médaille, immense déception par ailleurs pour l'équipe de France masculine à l'épée. Équipe championne du monde en titre, mais aujourd'hui elle était plutôt championne du monde de la frustration.
Ah oui, ça c'est sûr qu'en quart de finale, les Français sont tombés de très haut face à l'Italie. Les Français partaient largement favoris. Ils avaient trusté tous les podiums, même toutes les victoires depuis un an et leur titre de champion du monde. Ils étaient encore champions d'Europe en juin dernier, mais en quart de finale contre les Italiens. Alors qu'ils ont mené pendant 8 des 9 relais de ce quart de finale, eh bien ils se sont inclinés de 2 touches, 44 à 42. Finalement, ils ont remporté derrière leurs 2 matchs de classement pour terminer 5e. Mais ça ne suffit pas à contenter l'entraîneur des épéistes, Hugo Bry. Seulement l'argent en individuel pour Gauthier Grumier. Pas de médaille par équipe, alors qu'Hugo Bry avait annoncé 2 titres. Forcément, c'est un échec pour Hugo Bry.
C'est une déception. Après, quand tu viens ici pour gagner et que tu fais 5e, obligatoirement, tu as le droit d'être déçu. Après, on perd un match. Il faut encore bosser. Et puis voilà. Mais bon, on est encore en tête. Malgré tout ça, on est encore en tête à la qualif. Donc, on va positiver ça. On va prendre des vacances. Et puis, quand on est tout là-haut, de toute façon, on peut que descendre. Le plus dur, c'est d'y rester. Descendre un petit peu pour mieux remonter, finalement, pourquoi pas. Mais ouais, je vais passer des moins bonnes vacances que j'avais prévues.
Voilà Hugo Bry à l'instant, donc extrêmement déçu après ce zéro pointé pour l'équipe de France d'escrime. Merci beaucoup Rodolphe. On rappelle qu'RMC est partenaire de l'équipe de France olympique.
Puis pour la première fois depuis 2006, l'équipe de France de volley est en train de disputer une demi-finale de Ligue mondiale.
Ouais, les Bleus vont défier dans quelques instants la Pologne. Objectif victoire pour jouer demain en finale la Serbie, victorieuse des États-Unis 3-7-2. Benjamin Glaise, bonsoir.
Bonsoir.
Tu nous fais bien la petite présentation, les enjeux de cette rencontre pour nos Bleus.
C'est un sérieux morceau en tout cas pour l'équipe de France. La Pologne est championne du monde en titre, mais cette génération bleue est sans doute l'une des plus prometteuses de son histoire. En battant le Brésil en phase de groupe, les volleyeurs français ont acquis une 15e victoire de rang en Ligue mondiale, du jamais vu pour cette équipe de France. Et si la série s'est arrêtée hier contre les États-Unis, les Bleus atteignent pour la seconde fois de leur histoire, on l'a dit, le dernier carré de cette Ligue mondiale. La première fois, c'était en 2006, il y a 9 ans, avec une médaille d'argent à la clé. À l'époque, Stéphane Antiga était le capitaine de cette équipe de France. Hasard du destin, ce soir, Stéphane Antiga sera sur le banc adverse puisqu'il entraîne la Pologne depuis un an.
Merci Benjamin, on suit en fil rouge évidemment cette rencontre entre la France et la Pologne. En rugby, journée de repos méritée pour le groupe France après plusieurs jours de préparation intense sur les hauteurs de Tignes. À Tignes où Laurent Després a la chance de suivre Philippe Saint-André et ses hommes. Laurent, cette journée de repos a-t-elle été bénéfique aujourd'hui ?
Une journée de repos finalement, Guillaume, tu m'entends ?
Oui, on vous entend Laurent. Est-ce qu'elle a été bénéfique cette journée de repos pour nos Bleus ?
Oui, effectivement, même si elle n'a pas été vraiment de tout repos, parce que ces Bleus ont de l'énergie à revendre, et après une grasse matinée bien méritée, ils avaient des fourmis dans les jambes. Alors VTT, direction le glacier pour certains, direction le centre de la station pour d'autres, direction le bas de la station pour remonter ensuite en VTT, et puis point central, c'était le beach rugby, le tournoi organisé. Rémi Lamra, forcément, y est allé faire un tour.
Ouais, ça fait du bien. Mais bon, tu vois, on coupe pas, mais on a du rugby un peu quand même.
Et encore du vélo.
Et un peu de vélo, ouais.
Toujours du vélo pour Rémi Lamra, et on y ajoute en plus des activités nautiques. Ils n'ont pas pu résister au jump water. Tu sais, c'est cet énorme boudin gonflable où quelqu'un de 130 kilos se lance, et le joueur, en l'occurrence Rémi Lamra ou Guillaume Guirado, sont propulsés dans les airs et retombent dans les eaux glacées du lac. Ils se sont payés une barre de rire énorme. Tous les joueurs étaient là. Philippe Saint-André a même participé au tournoi de beach soccer à toucher et a même marqué un essai avec l'équipe de la presse qui a dit que tout allait pas bien dans le 15 de France. Belle journée de repos en tout cas ici à Tignes.
Merci Laurent pour toutes ces précisions. Un dernier mot de rugby au Four Nations. L'Australie a dominé l'Afrique du Sud 24-20, et en golf, le British Open perturbé par des conditions météo exécrables. La direction du tournoi a annoncé que le quatrième tour se jouerait lundi. C'est seulement la deuxième fois en 144 éditions que ce cas de figure se produit. Et puis au classement, l'anglais Willett et l'américain Dustin Johnson sont toujours en tête.
Ça fera durable pour les spectateurs. Merci Guillaume. On
merci Martial, à tout à l'heure.
19h pour RMC Sport, la deuxième édition. Dans quelques instants, avec nous, Cyril Guimard. Comme tous les jours, on va revenir sur cette étape rodaise mende gagnée par le Britannique Cummings et les Français qui sont passés tout près alors qu'ils avaient les moyens de gagner.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
18h19, dans 10 minutes maintenant, on rendra hommage à Jules Bianchi, le pilote français de Formule 1 décédé. On sera avec Patrick Tambay, mais là on va revenir sur cette étape du Tour de France Rodez Mende, et on est avec Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Alors Cyril, victoire du Britannique Stephen Cummings, déjà de l'équipe sud-africaine MTM, et puis derrière le podium avec des Français du côté de Mende, avec Thibaut Pinot et Romain Bardet. Alors dit comme ça, ça peut paraître un bon résultat Cyril, sauf que ces deux Français étaient en tête à 1,5 km de l'arrivée, et que pour différentes raisons que tu vas nous expliquer, eh ben ils se sont laissés bluffer et doubler par le Britannique Cummings.
Oui, effectivement, deux coureurs sur le podium d'une étape du Tour de France, surtout cette année, on n'a pas eu l'occasion quand même de le voir. Le seul problème, c'est que quand on regarde la façon dont s'est déroulé ce final, bien, on est quand même très frustré. Je pense que Pinot comme Bardet doivent l'être aussi, mais s'ils sont deuxième et troisième, c'est la faute de personne. C'est eux qui... à 1,5 km de l'arrivée. Alors rappelons, ils sont dans la dernière ascension, la côte Jalabert, dont son ex nom, et un sommet à 1,5 km de l'arrivée. Ils se retrouvent tous les deux au sommet. Ils ont lâché tous leurs compagnons d'échappée. Ils étaient 20 au pied, et donc ils se retrouvent tous les deux au sommet. On se dit, il n'y a pas de problème, ils vont faire 1 et 2. Malheureusement, comme ça se passe souvent dans cette situation, eh bien, ils se regardent un petit peu, ils hésitent à faire des relais, on va dire, normaux sans obligatoirement appuyer à fond. Au lieu d'avoir le souci dans un premier temps de se dire si on veut gagner, il faut qu'on arrive tous les deux, donc il faut qu'on roule et qu'on se mette d'accord pour rouler au moins jusqu'à 300 ou 400 mètres de l'arrivée. Eh bien non, ils se regardent et derrière, eh bien il y a Cumming qui lui, eh bien ne se pose pas de questions. Il a basculé à quelques secondes au sommet, il revient les chercher, il les passe en injection et les deux Français, eh bien n'ont plus que leurs yeux pour pleurer ce soir.
Alors Cyril, Romain Bardet à l'arrivée qui nous dit qu'il ne connaissait pas le profil de l'arrivée. Est-ce que c'est pas une petite faute professionnelle quand on se retrouve comme ça dans l'échappée, dans le bon coup du jour?
Ah, on ne peut pas connaître toutes les arrivées, mais celle-ci, elle est suffisamment, elle est suffisamment
connue. C'est pas une première sur le tour déjà.
Ben non, c'est la quatrième fois qu'on arrive. On a des plans de situation. Il y a au moins plusieurs personnes dans l'équipe qui le connaissent. Au moins Vincent Lavenu, les directeurs sportifs et quelques coureurs qui sont passés, qui sont arrivés ici. Donc c'est quand même facile d'expliquer comment les choses se passent. Sur le plan, c'est relativement clair. On sait que ça descend légèrement, voire même. Un petit peu plus fort à un moment. On sait qu'il y a un virage qui se prend vite sur la lancée à 450 mètres de l'arrivée. Attendez, il y a le nombre de fois où vous arrivez sur des situations beaucoup plus complexes que ça et vous ne vous ratez pas. Non, ils ne se ratent pas parce qu'ils ne connaissent pas le final. Ils se ratent parce qu'ils n'ont pas fait preuve de bon sens, de réalisme en disant si on veut assurer la gagne, il faut déjà qu'on arrive tous les deux. L'erreur, elle est là, et ça c'est une faute de cadet, parce que c'est ce qui se passe chez les cadets, c'est ce qui se passe la plupart du temps chez les jeunes, et pas d'ailleurs que chez les jeunes. Donc là, je suis désolé, c'est carton rouge pour les deux. Il n'y a pas d'autre possibilité que de leur mettre un carton ce soir.
Est-ce que tu penses que les directeurs sportifs vont leur monter les bretelles tout à l'heure?
Bah, je ne sais pas, hein, parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé. C'est que quand on écoute les discours d'après-arrivée, la première chose qu'on vous dit au bout de trois mots, bon, ok, on a perdu, mais enfin, on est content d'avoir fait cette place-là, puis on va positiver pour l'avenir. Et moi, ce qui me gêne et ce qui me choque, j'ai quand même fait du management d'équipe pendant de très nombreuses années, c'est qu'il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de réaction qui permette de dire « Eh ben on a en face de nous un vrai coursier ». Non, ben on s'est raté. Bon, ben c'est bien, on rentre à l'hôtel. Les directeurs sportifs, ah ben on va positiver pour demain. Et c'est pas la première fois dans le Tour de France cette année que ça arrive. On fait 7e ou on fait 8e, on a été battu, on dit qu'on est quand même content. Et ça, c'est un discours qu'on entend partout. Partout. Alors j'ai l'impression que ils vont tous à la même école faire les mêmes trainings pour répondre aux journalistes ou pour dire bah la vie bah c'est pas grave, une course c'est pas grave, on n'a pas gagné, bah tant pis. Bah écoutez, moi je suis désolé, j'ai dirigé beaucoup de grands champions. Eh bien je peux vous dire que quand on gagnait pas et qu'on avait fait une faute, on n'avait pas ce discours un peu léonien.
Alors, je vais juste rappeler en détail le classement de cette étape. Steven Cummings qui gagne amende, Pinot deuxième à 2 secondes, Bardet troisième à 3 secondes. Après, c'est des rescapés de l'échappée dont tu parlais, Cyril, Ouran quatrième, Sagan, Cyril Gauthier. On a oublié aussi d'autres Français hein, dans cette échappée avec Pierrick Périchon et puis Jérémy Roy aussi. Je vais juste revenir sur maintenant, Cyril, la bagarre pour le classement général. Il n'y a pas eu de chambardement, mais il y a eu un petit changement quand même avec... c'est plus le même deuxième derrière Chris Froome, c'est Quintana maintenant le deuxième derrière le Britannique, le Colombien qui a osé attaquer, qui a à un moment pris quelques mètres d'avance sur Froome dans la montée Vermande, Cyril, mais finalement Froome et Quintana se sont retrouvés tous les deux les plus forts, ça se confirme dans le peloton des favoris.
Oui, alors il y avait deux courses aujourd'hui, celle du groupe de tête, mais c'est souvent le cas dans ce type d'étape. Et puis, compte tenu de la dernière difficulté, il y avait une explication, on va dire, miniature par rapport à une arrivée au sommet de Grand Col. Mais elle a été quand même très riche en enseignements. On a vu un Quintana qui a attaqué à plusieurs reprises, creusant des écarts allant jusqu'à 6-7 secondes sur Froome. Et Froome, avec son style caractéristique, eh bien derrière temporise, et progressivement revient chercher à chaque fois Quintana. Mais les accélérations de Quintana et l'obligation pour Chris Froome, eh bien de monter. dans les mêmes chronos que le Colombien, eh bien, cela va provoquer des dégâts. Et le premier, c'est Van Garderen. Van Garderen qui va quand même débourser 39 secondes. Valverde s'en sort relativement bien. Mais Contador, lui, il va pas résister non plus. Il va en perdre 19. Geraint Thomas, dont on a beaucoup parlé, l'équipier de Christopher Froome, qui n'a pas travaillé aujourd'hui, mais finalement qui a montré quand même un peu ses limites en perdant 49 secondes. Et puis si on va plus loin, notre français, notre premier français du classement général, Tony Galopin, eh bien a aussi, sur une ascension qui ne durait que 3 km, ok, d'accord, 10%, ça n'est pas rien, a déboursé à peu près la même chose que Geraint Thomas, c'est-à-dire 51 secondes. On retrouve une vraie hiérarchie sur ces 3 km. J'ai presque envie de dire, pourquoi faire des cols de 20 km.
C'est vrai que ça a bougé quand même en quelques minutes. Tony Galopin, qui est maintenant 9e du général, à 8,23 de Christopher Froome. Cyril, demain, a priori, une étape sans difficulté, en tout cas quand on regarde le parcours. Mende-Valence, 183 km. Faut s'attendre à quoi demain pour cette 15e étape?
Alors, s'attendre à quoi? C'est l'avant-dernière occasion pour les sprinters, je parle les vrais sprinters comme Greipel, Cavendish, les Français, Coquard et Arnaud Démare. C'est l'avant-dernière possibilité d'aller gagner une étape, ce qui veut dire que demain l'équipe de Marc Madiot ou l'équipe de Bernedeau vont être obligés de tout faire pour provoquer une arrivée au sprint pour que enfin un sprinter français l'emporte. Après, il restera plus que les Champs-Élysées. C'est compliqué aux Champs-Élysées. C'est vrai pour Greipel, qui a perdu beaucoup de points aujourd'hui sur Peter Sagan au niveau du maillot vert, où Peter Sagan a pratiquement fait le break. Degenkolb, il n'a rien dans sa musette non plus. Donc une étape logiquement qui devrait arriver au sprint à Valence.
Très bien, Cyril. On te retrouve 19h hein, avec toute l'équipe du côté de Mende, avec Bourgui, Luc Lucho et puis bien sûr Christophe Cessieux. À tout à l'heure, Cyril.
À tout à l'heure.
18h27 sur RMC dans quelques instants. Patrick Tambay avec nous pour revenir sur la triste information pour le sport français aujourd'hui, avec le décès de Jules Bianchi, le pilote français de Formule 1 qui était dans le coma depuis 9 mois suite à son accident au Grand Prix de Formule 1 du Japon à Suzuka en octobre dernier.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
18h30 dans l'Intégral Tour. On est ensemble jusqu'à 21h. Et on va parler bien sûr dans quelques instants de la Coupe Davis et de l'équipe de France en grande difficulté après la perte du double aujourd'hui face aux frères Murray, la Grande-Bretagne qui mène maintenant 2-1. On parlera aussi d'une journée sans médaille pour l'équipe de France d'escrime au championnat du monde à Moscou. Mais d'abord, on va revenir sur la triste information qu'on a prise ce matin, le décès hier soir de Jules Bianchi, le pilote français de Formule 1, décédé hier soir au CHU de Nice, à 25 ans, 9 mois après son accident lors du Grand Prix de Formule 1 à Suzuka. Le français qui était dans le coma depuis octobre dernier. Il y a Patrick Tambay qui est avec nous ce soir. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Martial.
Alors Patrick, triste nouvelle, je le disais, qu'on a appris par un communiqué de la famille qui nous disait: Jules s'est battu jusqu'au bout comme il l'a toujours fait, mais hier sa bataille a pris fin. C'était une fin qu'on redoutait et qui a fini par arriver, hein, Patrick.
Ah oui, on l'a redouté cette fin, mais on s'y attendait depuis très longtemps, parce que ceux qui étaient proches un peu de la famille savaient dans quelle situation médicale, dans quelle tristesse, Jules était en train d'essayer de se battre pour retrouver de la lumière, mais enfin bon, il y avait eu des séquelles tellement importantes faites que c'était probablement irrémédiable.
Patrick, c'est quelqu'un que tu connaissais bien et depuis longtemps, hein, Jules Bianchi. Quel type de garçon c'était déjà en dehors des pistes?
C'est le profil même du guerrier, du pilote de course, et en dehors des pistes comme sur la piste, avec beaucoup de gentillesse et de droiture, de discrétion, de tranquillité d'esprit. Il était très très sûr de lui aussi, c'est indispensable comme paramètre. Il a fait de la course automobile sa passion, sa vie, toute son existence tournée autour de ça, puisqu'il est né sur une piste de kart. Son papa gérait une piste de kart, deux pistes de kart en fait, à Brignoles et à Grimaud. Et donc il a roulé depuis le tendre âge de 2, 3, 4, 5 ans, peut-être 2, je vais exagérer un petit peu, mais à partir de 4 ans, 5 ans.
Il a commencé la compétition à l'âge de 10 ans et s'est expatrié en Italie pour rouler professionnellement dans des grandes équipes italiennes de kart. Repéré par la Ferrari déjà à l'époque, et puis il a signé un contrat de pilote d'essai avec eux, et même s'il conduisait une monoplace peu compétitive maintenant, il avait réussi des exploits qui lui permettaient d'entrevoir la possibilité de rentrer chez Ferrari quand il y aurait une ouverture, et cette ouverture, elle semble peut-être se présenter à la fin de cette saison, si Kimi Räikkönen ne reste pas. Mais voilà, voilà, maintenant, Jules n'est plus là, et ce sera peut-être probablement quelqu'un d'autre qui prendra cette place.
Alors on sent le monde du sport en général et le monde du sport automobile en particulier vraiment touché aujourd'hui, Patrick. C'est sans doute dû, comme tu le dis aussi, à cette personnalité de Jules Bianchi qui était aimé de beaucoup de monde. On a joint Romain Grosjean, pilote Formule 1 qu'on connaît bien sur RMC, qui lui aussi connaissait bien Jules Bianchi pour l'avoir côtoyé dans les paddocks, dans différentes compétitions. Romain Grosjean.
Effectivement, un moment très difficile. J'ai appris ça au réveil. Alors, bien évidemment, on pense à Philippe, son papa, sa maman, sa sœur et son frère. Voilà, ça fait 9 mois que Jules se battait et se battait plus fort que ce que tout le monde avait pu imaginer. Malheureusement, on a eu cette triste nouvelle du décès ce matin et c'est vrai que c'est une journée difficile. J'ai envie de penser à la famille de Jules. Jules qui était un pote et un super mec de 25 ans avant même d'être un super pilote, mais c'est vraiment, on a perdu aujourd'hui un ami et un talent extraordinaire.
Voilà, c'était Romain Grosjean. Patrick Tambay toujours avec nous dans l'intégral tour pour revenir donc sur ce décès de Jules Bianchi. Patrick, la famille avait tout fait pour y croire, même si le papa, hein, Philippe, petit à petit savait que la fin était toute proche.
La famille, dans un sujet comme celle-ci, je pense, je ne voudrais pas la vivre. Elle sera pas, s'accroche toujours à une lueur d'espoir, mais je crois qu'il y avait eu des séquelles très 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 importantes réalisées avec un hématome, des hémorragies au niveau du cerveau de manière importante, et on avait dû, je crois que les médecins japonais, sans divulguer quoi que ce soit, avaient dû faire une opération très importante sur le cerveau de Jules. Alors je ne sais pas si il aurait pu à jamais récupérer quelque chose, je pense pas, parce que je suis assez proche de ce genre de problématique. Et je sais que le cerveau, c'est quelque chose de très très précieux et qui est très fragile aussi, qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas opérer de manière aussi facile que cela, et qu'il est très très long et très très difficile de s'en remettre. J'ai des amis qui ont eu des AVC, des choses comme ça, et on peut le constater. Et tous ceux qui l'ont vu de près aussi l'ont constaté. Donc, écoutez, aujourd'hui, je voulais dire que une longue souffrance qui s'est terminée cette nuit pour la famille, très certainement, surtout pour Jules, même s'il était totalement inconscient. Je sais pas, je crois que c'est une bonne chose maintenant, parce que quand on sait que dans quel état il était, eh bien, je crois qu'il vaut mieux que ce soit une fin comme celle-ci qui se passe. Alors, on va pas rentrer dans la polémique de savoir pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça s'est produit. En tout cas, on a tenté techniquement de faire tout ce qu'il fallait pour que ça ne se reproduise plus. Par contre, on voit toujours des grues qui, même si maintenant il y a des systèmes qui obligent les pilotes à ralentir un petit peu de partout, c'est anachronique, parce que on a affaire à des pilotes de course et on leur demande d'aller moins vite. Mmh. Bon, c'est pour des raisons de sécurité, mais enfin, c'est un petit peu quand même parfois. J'ai envie de pousser les coups de gueule parfois enfin, je l'ai fait à l'époque, ça m'a horripilé et j'espère que ce décès, cette disparition de ce jeune espoir du sport automobile français, vraiment du sport automobile mondial, donnera à réfléchir à tous les pouvoirs sportifs qui ont la responsabilité de la vie et du bien-être de ces jeunes gens.
Oui, Patrick, j'ai juste rappelé, parce que tu en parlais, les circonstances de l'accident au mois d'octobre dernier à Suzuka avec la voiture de Jules Bianchi qui avait percuté une petite grue, hein, un engin d'élevage qui était situé en bord de piste. Qui n'avait rien à faire là pour sortir une autre voiture. Et Jules Bianchi, avec sa monoplace, l'avait percuté. Tu parlais d'éventuels changements quand même. Tu penses que la F1 est en train et va tirer les leçons de ce drame?
Oui, il y a déjà, dès le lendemain, dès la course suivante, il y avait mis un système en place pour informer les pilotes qu'il y avait une intervention sur une portion du circuit et qu'il fallait absolument faire attention à tous les tous les instants. Là, on a reproché à Jules d'être passé le dernier au moment d'un incident qui a eu lieu derrière lui, et qui, au tour suivant, quand il est arrivé, était mal signalé. On lui a reproché d'être arrivé trop vite. Mais bon, on ne peut pas reprocher à un pilote de course d'essayer de gagner du temps.
Il n'y avait pas de drapeau cohérent à cet endroit-là. C'était compliqué. Enfin, bon, une situation très, très, très complexe. Très compliquée. Je ne voudrais absolument pas que l'on incrimine, Jules de quelque manière que ce soit. Et au contraire, qu'on doit, saluer sa mémoire.
Et on la saluera, sa mémoire aussi, bien sûr, la semaine prochaine, hein, parce que la Formule 1 continue avec le Grand Prix de Hongrie le week-end prochain. On en parlera aussi demain sur RMC Motors, le rendez-vous Motors à 13h, hein, avec une émission spéciale consacrée au décès de Jules Bianchi. Merci beaucoup, Patrick.
Je t'en prie, à la semaine prochaine, au revoir.
À très vite, Patrick, merci beaucoup. Le décès de Jules Bianchi, l'intégral tour à 19h. On repartira sur la route du Tour de France du côté de Mende avec, je vous le rappelle, la victoire du Britannique Stephen Cummings dans cette étape devant deux Français, devant Thibaut Pinot et Romain Bardet. On sera avec toute la Dream Team. Et puis, on suit aussi, bien sûr, l'équipe de France de volley pour l'instant qui est en demi-finale du Final Four de la Ligue mondiale. C'est face à la Pologne et c'est très serré dans la première manche, mais pour l'instant, les Français mènent 22 points à 20 face aux Polonais. Dans quelques instants, le tennis avec les Français mal en point du côté du Queens. Ils sont menés 2 points à 1 par l'équipe de Grande-Bretagne.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h42 sur RMC, l'Intégral Tour qui retournera du côté de Mende avec une journée très britannique. Sur ce Tour de France, victoire de Stephen Cummings au sommet de la côte Jalabert du côté de Mende et Chris Froome qui garde son maillot jaune. Et une journée très britannique aussi, question Coupe Davis.
RMC Coupe Davis, quart de finale, Grande-Bretagne-France.
Quart de finale, Grande-Bretagne-France et Grande-Bretagne-France. Le samedi soir, il y a 2-1 pour les Britanniques. On est avec Eric Salio. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Et avec Sarah Pitkowski de la Dream Team. Salut Sarah.
Bonsoir.
Alors Sarah et Eric, Eric déjà on va commencer par le match de cet après-midi. C'était donc Tsonga et Mahut face finalement aux deux frères Murray. Et j'ai envie de dire que les plus forts de l'après-midi ont gagné.
Oui, c'est une victoire indiscutable des frangins en quatre manches, 4-6, 6-3, 7-6, 6-1. Ça s'est joué peut-être, ça a basculé au tie-break du troisième set. Il a fallu peut-être un coup de génie d'Andy Murray sur un retour, sur une première balle de Joe qui a fait la différence. Mais surtout, ce qui m'a marqué, moi, derrière, c'est l'écroulement des bleus avec un quatrième set qui a filé à la vitesse de la lumière et on a senti des bleus complètement résignés. Donc voilà, on se retrouve dans une position extrêmement délicate puisque vous connaissez le règlement de la Coupe Davis. Demain on commence avec le match des numéros 1, c'est-à-dire qu'il faudra battre Andy Murray. Alors on ne sait pas qui jouera contre Andy Murray, mais il faudra forcément battre Andy Murray pour décrocher un éventuel cinquième match décisif face à James Ward. Donc c'est très compliqué.
Sarah, Andy Murray justement sur ce double, en transe, on l'a rarement vu comme ça, à exhorter le public tout au long du match, à pousser son frère. C'est la fibre patriotique, ça, qui l'a poussé comme ça, d'après toi?
Bah, il a eu ce même comportement hier en simple. Je pense aussi que c'est un moyen, certes, d'exhorter le public et donc que ce fameux troisième homme en Coupe Davis joue un rôle, mais c'est aussi, je pense, pour lui, enlever aussi cette charge et ce poids qu'il a. Il a fait un petit peu le même début de match hier et aujourd'hui. On le sent quand même un peu hésitant. C'est pour ça qu'on a des occasions en double aujourd'hui. Et puis petit à petit, quand les occasions elles sont pas transformées du côté français, eh bien lui commence à se relâcher et son niveau de jeu atteint ce qu'il a de meilleur. Donc je le disais ce matin et on le répète souvent, un top 10, un top 5 de joueurs de simple est aussi voire plus dangereux qu'une équipe de double qui joue en double toute l'année. C'est donc je dirais qu'il a il a tenu son rang et il est monté en puissance et il a porté son frère. On savait et on sait que l'équipe de Grande-Bretagne a un joueur pour gagner la Coupe Davis, il l'a prouvé hier et aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut pas trop regarder du côté de la Grande-Bretagne. Il faut peut-être commencer aussi à regarder du côté de l'équipe de France, se regarder le nombril, parce que je pense quand même qu'il y a des manquements. Voilà, on peut perdre, on peut toujours perdre, mais l'écroulement d'hier et celui d'aujourd'hui, forcément que ça aura un impact sur le collectif.
Alors ces manquements dont tu parles, Sarah, on va écouter Nicolas Mahut, donc qui jouait ce double cet après-midi, ce double perdu avec Joe Wilfried Tsonga face au frère Murray, et Nicolas Mahut qui a, on va dire, assumé ses responsabilités.
Je ne cache pas que ce soir c'est très dur, je prends assez personnellement cette défaite. Arnaud m'a fait confiance, les gars m'ont fait confiance et aujourd'hui je prends un peu pour moi. Voilà, on n'a plus de joker, ça on le sait. On sait aussi qu'il va falloir créer un exploit. Et je crois qu'ils sont capables de le faire en créant un exploit, c'est possible. De toute manière on n'a plus le choix, donc il va falloir rentrer sur le terrain, tout donner et puis espérer que les gars fassent un gros match.
Voilà, Nicolas Mahut, Eric Salio, tu l'abordais tout à l'heure. Demain déjà, l'exploit c'est de battre Murray, mais qui pour jouer contre Murray? Est-ce qu'il y a des indices de ton côté là-dessus?
On a deux solutions. Soit on garde Gilles Simon, donc qui est le numéro 1, soit on sort du banc et du frigo, entre guillemets, Richard Gasquet. Alors, quand on regarde les stats, Andy Murray mène 12-2 face à Gilles Simon et 5-3 face à Richard Gasquet. Mais c'est trompeur, parce que les trois dernières rencontres de Gilles Simon face à Andy Murray ont été extrêmement serrées. Il y a eu un match à Madrid qui s'est fini 7-6 au troisième. Il y a eu un match à Acapulco où il perd en ayant mené 6-1-4-1. Et puis il y a eu surtout cette révélation à Rotterdam où il a collé une trempe à Andy Murray. Et à la fin, il disait ça y est, j'ai enfin compris comment il fallait faire pour battre Andy Murray. Et ça, à mon avis, ce sera décisif au moment du choix qui, au moment où on se parle, a déjà été fait. C'est ce que nous a confié Arnaud Clément. Il dit le choix est fait, c'est clair. Donc ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Donc moi, je pencherais plutôt pour mettre Gilles Simon demain, d'autant qu'il a mérité de jouer Andy Murray. Il était très bon hier en simple, et surtout je vous dis, c'est un joueur qui est très tactique, qui est très instinctif, et il a compris les trucs récemment, notamment lors de ses trois derniers matchs. Et donc après, je pense que Richard Gasquet sortirait du banc si jamais il y a deux, mais on prend quand même le risque, et c'est ça qui me chagrine, moi, de perdre ce match à trois, si on suit la théorie, tu vois ce que je veux dire, Sarah?
Tu peux perdre ce match à 3. Qu'est-ce que t'en penses, toi,
Sarah? Alors qu'on ne cesse de dire qu'on a un collectif fantastique, qu'on peut faire on peut changer tout le monde.
Mais
on
c'est
a
là
un mec
notre problème.
Il vient de faire
Eric.
Demi à Wimbledon.
Tu sais,
qui va peut-être pas jouer
problème.
Du week-end.
Tu sais quoi? Le problème en Coupe Davis, c'est qu'ils sont tellement homogènes qu'on veut toujours ménager la chèvre et le chou. On se dit toujours, on a 4 joueurs et on veut tous qu'ils soient interchangeables. Mais finalement, ça démontre que ils ne prennent pas leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'à force de dire on prend 4 joueurs, mais alors on peut mettre celui-là en 1, on peut changer notre double, et puis au dernier moment on peut les surprendre sur le 5e match des 6. C'est-à-dire qu'on se prend tellement la tête que le mec qui rentre sur le court, il devra avoir un match en tête et une mission. C'est-à-dire que Joe rentre, il a 2 simples et un double à gagner. Ou Richard, on lui dit, Richard, tu joueras avec Joe en double, parce que l'année dernière, mis à part ce couac en finale, vous avez gagné tous les doubles ensemble. Le problème, c'est qu'on leur donne des mini-multi-missions. Donc en fait, on essaie de se dire qu'on va avoir plein de jokers au cas où on n'arriverait pas à assumer notre statut. Putain, mais merde, il y a un moment, le mec, il doit se préparer pour un match. On prépare l'équipe de double et on leur fout la paix. Il n'y a qu'une seule équipe de double. Et on prépare les mecs pour le simple. Le problème, c'est qu'on veut jouer sur tous les tableaux et finalement, regardez ce que ça donne. On a 3 joueurs et il y a un mec qui va nous éliminer alors qu'on a 3 joueurs en face. Il y a un moment, ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Ouais,
Sarah,
ça fait mal au cœur.
On s'en énerve. Demain, tu fais quoi, du coup, avec cette...
Demain, je mets Gilles. On met Gilles. Il faut mettre Gilles, parce que Gilles est un joueur en forme. Aujourd'hui, il enlève petit à petit ses démons qu'il a en simple en Coupe Davis, parce que il a eu un passé douloureux. Et puis, on n'a pas d'autre choix. Parce que si Richard, tu le mets, déjà qu'il prend pas ses responsabilités le vendredi ni le samedi, qu'est-ce que tu veux le sortir du chapeau au dimanche? Ça marchera pas. Ça fonctionnera pas. S'il y en a un qui peut jouer les oraux demain, je pense que c'est Gilles. Voilà. Et puis s'il le fait pas, eh ben on aura fait ce qu'on a fait, et puis on essaiera, en tout cas l'équipe de France aura à tirer des conclusions, de se dire que peut-être quand on a une équipe, il faut définir une équipe de double, de penser que on a un pilier en double et qu'après on met n'importe quel joueur à côté, on aura une bonne équipe de double, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Soit on
pourtant,
met
ils ont fait des
Gasquet.
Séances ils ont fait des séances toute cette semaine, mais ça
mais tu fais pas des séances en 3 jours. ça te fait pas mal au cœur, toi, de voir que les deux en face, ils n'ont pas joué depuis 2 ans en double et que et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et au point de passer au quatrième au travers.
Ils ont joué près de 60 matchs ensemble. Ce sont deux frères, donc la complicité est naturelle.
Ouais, bah ouais.
Et ça joue aussi.
Et ben alors, ok, je te suis dans cette idée là. Et ben dans ces cas-là, tu sors pas, tu mets un gasquet et un de son gars, parce que eux ont joué toutes les, ils ont les réflexes de l'année dernière, alors que Mahut, son gars, ils ont des réflexes d'il y a 2 ans. Bah, donc ça colle pas. Donc il y a un truc qui colle pas.
Bon, voilà. Demain, Eric, les deux derniers simples, c'est à quelle heure? Le premier à heure française.
Je ne sais pas.
Je te colle.
Il faudrait que je ne sais même pas.
C'est
serai
pas
là.
À 13h.
Ouais, ça doit être à 13h heure londonienne et 14h en français.
Je serai là dès 9h pour voir.
De toute façon, on sera
sub
sur RMC, bien sûr.
D'accord.
Merci Eric,
bon,
merci Sarah.
Tu les motives un peu, hein, oui. Parce que là, je suis énervé.
Ouais,
hein.
Crois-moi, ils ont déjà quitté le club, ils ont bâclé la conférence de presse, ils sont à l'hôtel et voilà.
Et j'espère que Arnaud Clément
c'est
va
une
leur,
grosse
va
parce que c'est une génération,
fais,
je termine là-dessus, c'est une génération qui va passer à côté, encore une fois, d'un Saladier peut-être.
Alors justement, juste je donne les résultats des autres quart de finale. Le Kazakhstan qui ne mène plus que 2-1 face à l'Australie puisque l'Australie a gagné le double ce matin. La Belgique, elle est déjà en demi-finale après sa victoire.
Super.
3-0 face au Canada. Et puis l'Argentine mène 2-0 face à la Serbie. Avec le décalage horaire, ce sera un petit peu plus tard. Merci Sarah, merci Eric.
Allez, bonne après-midi, bonne fin de journée.
À partir de 13h30 demain, ces deux derniers matchs. Et on suivra ça bien sûr sur RMC, comme on suit sur RMC depuis le début de la semaine, les championnats du monde d'escrime du côté de Moscou.
RMC, France Olympique.
Championnat du monde d'escrime du côté de Moscou. On va retrouver Rodolphe Massé. Bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Martial.
Alors pour tout te dire Rodolphe, quand on se disait le samedi on fera peut-être un petit point sur ces jours d'escrime, on espérait plus de médailles, aujourd'hui il n'y en a pas eu alors qu'on en attendait beaucoup, on avait au programme, enfin on en attendait peut-être deux, l'épée par équipe féminine et masculine, et les premiers qui nous ont franchement déçus parce qu'on attendait beaucoup d'eux, ils arrivaient avec le titre, ils étaient tenants du titre, ce sont les garçons.
Oui, c'est surtout eux que l'on attendait, et pas sur le podium, on les attendait sur la plus haute marche du podium. Ils étaient champions du monde en titre, ils étaient encore sacrés champions d'Europe en juin dernier à Montreux en Suisse. Sur toutes les coupes du monde de la saison, ils en ont remporté les deux tiers. C'était la nation numéro un mondiale au classement depuis un an. Clairement, les Français, on les attendait champions du monde. Aujourd'hui, c'était l'objectif que leur avait assigné leur entraîneur, Hugo Brie. Tout l'encadrement de l'équipe de France misait sur cette épreuve-là pour se dire, c'est sûr, il y aura forcément un titre. Et bien voilà, patatras, raté. Un quart de finale perdu de 2 touches, 44-42 contre l'Italie, alors que les Français ont fait la course en tête quasiment tout le long. Alors certes, derrière, ils ont su se ressaisir pour remporter leurs 2 matchs de classement, prendre la 5e place, les points qui vont avec en vue de la qualification olympique, donc il n'y a pas péril en la demeure. Mais quand on regarde le bilan de ces mondiaux pour le collectif de l'épée masculine, il est décevant parce qu'il n'y a qu'une médaille en argent. C'est pas mal une médaille en argent, mais il n'y a qu'une médaille en argent en individuel, pas de médaille par équipe. Des mondiaux ratés, c'est la question que l'on a posée à Gauthier Grumier, justement le médaillé d'argent en individuel.
Quand on gagne pas ou qu'on n'est pas sur le podium, c'est sûr que voilà, on s'est raté. Sur tous les résultats d'ensemble de la saison, on n'a pas quitté le podium une seule fois. Et il a fallu que ça soit sur la dernière épreuve avant les vacances. Donc voilà quoi, on finit à la 5e place. On s'est pas mis à l'abri tranquille pour la qualification olympique. Faudra encore aller faire des résultats la saison prochaine. Donc je pense que au mois de décembre, nos petites vacances qu'on voulait se faire, on va se les mettre ailleurs, hein. Et puis voilà quoi.
Voilà, Gauthier Grumier 5e avec l'équipe de France masculine, puis aussi l'équipe de France féminine à l'épée Rodolphe qui termine au pied du podium.
Oui, très honnêtement, on les attendait pas sur le podium, les Françaises, parce qu'elles n'étaient que 9e au classement mondial, parce que c'est une équipe qui est en construction, reconstruction. Il y a bien sûr la revenante Maureen Nissima, 33 ans, mais le reste de l'équipe est très jeune, à l'image d'Oriane Malo, 21 ans, Marie-Florence Candasamy, 24 ans. Elles ont réalisé un exploit en quart de finale en battant les Italiennes. Tiens, les Italiennes étaient numéro 1 mondial. On s'est dit, il y a peut-être une chance de médaille pour l'équipe de France, mais derrière, en demi-finale, elles ont perdu contre la Corée du Sud, et le match pour la médaille de bronze, elles l'ont perdu également, les Françaises. Donc elles terminent au pied du podium. En revanche, pour elles, c'est une bonne opération, hein, en vue de la qualification olympique. Elles ont marqué des points aujourd'hui qui vont permettre de les relancer dans la course à la qualif pour Rio en 2016.
Alors Rodolphe, demain, dernier jour à Moscou pour ces championnats du monde d'escrime, c'est le fleuret hommes et dames par équipe. Il y a des chances là de médailles pour les Français?
Ah bah moi j'ose plus rien dire au niveau des chances de médailles. Hein. Depuis le début des mondiaux, je me suis un peu... Ah oui, mais en théorie, moi j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien, mais l'équipe de France masculine de Fleuret, elle est championne du monde et championne d'Europe en titre. Ça ne te rappelle rien, c'était le cas des épéistes. Donc effectivement, demain, il peut y avoir une médaille, il peut surtout y avoir un titre, parce qu'il y en a besoin pour redorer le blason de l'équipe de France. C'est en tout cas ce que souhaite le directeur technique national Christian Peters.
Faut avouer que c'est pas très glorieux. Il y a deux belles médailles d'argent au départ à l'individuel, ça peut laisser augurer de bons résultats derrière. Et alors qu'on est un bon collectif, on n'est pas fichu d'aller chercher les médailles qu'il nous faut. Bon, c'est pas dramatique en soi, et j'espère que les fleurettistes demain, que ce soit les filles ou les garçons, vont tirer pour leur arme et pas en pensant à ce qui s'est passé avant. Voilà, donc j'ai bon espoir, on verra demain. J'espère qu'ils prendront leur destin en main.
Voilà, Christian Peters, le DTN de l'escrime. Rodolphe, juste rappeler que pour le DTN, avant ces championnats du monde, l'objectif c'était 5 médailles, dont 2 en or. Hein. Donc de toute façon, ça sera pas
atteint. C'est raté.
Ouais,
l'objectif ne sera pas atteint. Honnêtement, là, vu comme c'est parti, si on termine à 3 médailles, dont 1 en or, la casse aura été limitée.
Ok, très bien, Rodolphe. Et on te retrouve demain, bien sûr, pour ces fleurets. À demain, Rodolphe.
À demain.
À demain, 18h56 sur RMC. On suit le volley aussi, je vous le dis, la France qui mène 1-7-0 en demi-finale de la Ligue mondiale face à la Pologne. Et il y a 8 points à 5 pour les Français dans le deuxième set, donc tout va bien pour l'instant du côté de Rio. On part du côté de Mende, l'intégral tour, toujours le Tour de France, Christophe Cessieux et son équipe.
Oui, avec la grosse frustration, il n'y a pas qu'à Londres qu'on est frustré, il n'y a pas qu'à Londres qu'on est battu par les Anglais. Cummings qui a donc réglé tout à l'heure sur la ligne Bardet et Pinot qui termine deuxième et troisième de cette étape. Les coureurs français manquent-ils d'intelligence tactique? Et puis on va s'intéresser également à la formation Sky, car Chris Froome a été victime de spectateurs aujourd'hui qui lui ont versé des produits pas très réjouissants sur la tête. On en parlera dans quelques instants avec toute la Dream Team, Cyril Guimard, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon. On est ensemble jusqu'à 20h avec vos questions, évidemment, après 20h pour Cyril, Thierry et Luc. Et le 32-16 est évidemment ouvert. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.